Et une fois de plus, l'actualité reste encore ce matin largement dominée par la pandémie de Covid-19 en France notamment. Les spéculations vont bon train sur un éventuel reconfinement. Nous essaierons par ailleurs de comprendre le scepticisme qui semble avoir gagné une majorité de la population française à l'égard de la vaccination et serons en ligne avec l'eurodéputée Nathalie Collin-Oesterle.
Au Royaume-Uni, là-bas, la courbe de contamination est au plus haut.
Et notamment depuis l'apparition de sa fameuse variante particulièrement contagieuse. Et puis nous irons en Chine où une journaliste citoyenne qui avait couvert en début d'année la mise en quarantaine de la ville de Wuhan, berceau du nouveau coronavirus, a été condamné ce matin à 4 ans de prison.
Parce que la crise sanitaire ne saurait faire oublier la crise climatique, un rapport publié ce matin nous apprend que les 14 plus grosses catastrophes de cette année 2020 dans le monde ont coûté quelques 130 milliards de dollars. Enfin, toujours dans le journal, Thomas, direction les États-Unis.
Oui, moins d'un mois avant son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump a effectué hier soir une volte-face spectaculaire en ratifiant abruptement et après des jours de résistance le nouveau plan de relance économique. Enfin, 12h55, Maëlys, ce sera la grande table des idées.
Et oui, nous recevons l'historienne Florence Rochefort pour parler de l'ouvrage collectif Ne nous libérez pas, on s'en charge, aux éditions de La Découverte.
Son nom ne vous dit probablement rien et pourtant, cette ex-avocate devenue journaliste citoyenne a été l'une des toutes premières à se rendre à Wuhan, alors en proie à une étrange épidémie. C'était en février dernier, au moment où personne encore n'aurait pu imaginer le monstre en gestation qui allait bientôt occuper nos pires cauchemars. Chang Jiang avait diffusé ses reportages sur les réseaux sociaux, révélant notamment combien la situation était chaotique dans les hôpitaux. Et ce matin, à l'issue d'un procès qui n'aura duré que quelques heures à peine, eh bien cette femme de 37 ans, arrêtée au printemps dernier sous l'accusation de provocation au trouble, a été condamnée à 4 ans de prison. De quoi évidemment jeter une ombre sur les efforts de la Chine pour vanter sa réussite dans la lutte contre la maladie apparue sur son sol avant de se répandre à la surface du globe. C'est une correspondance signée Zifan Liu.
Trois petites heures de procès et une sanction en forme d'avertissement. Chang Jiang, ancienne avocate reconvertie en journaliste citoyenne, a été condamnée à 4 ans de prison par le tribunal de Shanghai. Le motif, provocation au trouble, une terminologie fréquemment utilisée par le régime communiste pour mettre au pas toute forme de dissidence. Chang, 37 ans, avait été arrêté en mai dernier pour ses reportages dans une ville de Wuhan sous cloche. Dans les rues du berceau de l'épidémie, elle filme une mégalopole déserte et des hôpitaux débordés. Elle est alors placée en détention où elle est attachée 24 heures sur 24. Elle entame rapidement une grève de la faim avant d'être nourrie de force par un tube nasal. En tournant ses propres vidéos, Chang Jiang est un cas emblématique de la censure chinoise concernant la gestion de l'épidémie de coronavirus. Trois autres journalistes citoyens, tous arrêtés lors de reportages dans la ville du centre de la Chine, ont également disparu. Avec cette sanction, les autorités chinoises veulent montrer que rien ni personne ne peut venir contredire le récit narratif de la victoire du pays contre le virus.
Toujours en Chine, c'est aujourd'hui que s'est ouvert à Shenzhen le procès d'un groupe de militants hongkongais arrêtés l'été dernier alors qu'ils tentaient de fuir en bateau la province prétendument autonome à destination de Taïwan. Certains d'entre eux étaient notamment menacés de poursuites à Hong Kong pour leur implication dans les immenses manifestations pro-démocratie ayant secoué la ville l'an dernier. Les États-Unis ont réclamé en vain ce matin leur libération immédiate. Bien que coutumier des polémiques, le tempétueux Donald Trump s'est finalement résolu à signer hier le nouveau plan de relance. Sous la pression de parlementaires de tous bords politiques, le président sortant a non seulement ratifié la législation qui, grâce à ses 900 milliards de dollars, devrait soulager des millions de chômeurs dont les allocations prévues dans le cadre du premier plan de soutien avait expiré la veille, mais le milliardaire a par ailleurs signé la proposition de loi de financement de l'État fédéral qui permettra ainsi d'éviter un énième shutdown des services publics. Une volte-face spectaculaire donc, à moins Omar Waman, que ce coup de théâtre ne participe en réalité d'un drame politique de toutes pièces lorsque mardi dernier, Donald Trump avait menacé d'opposer son veto à ce plan négocié entre républicains et démocrates avec l'assentiment de son ministre de l'économie.
Oui, dans une vidéo diffusée mardi, le président américain avait qualifié ce plan de relance de honte et exigé que les chèques de 600 dollars, comme prévu, destinés aux familles en difficulté, soient augmentés à hauteur de 2000 dollars. Un défi que les démocrates étaient prêts à relever, mais que le parti républicain a rejeté, un désaveu pour Donald Trump qui a finalement apposé sa signature au projet de loi depuis sa résidence de Floride. Ce nouveau plan de relance, après celui en mars dernier de 2200 dollars, devrait soulager les ménages et les entreprises touchées par la crise en profondeur. prolongeant de 3 mois les aides fédérales versées aux chômeurs. Il accorde également des prêts garantis aux entreprises. Il octroie des milliards de dollars d'aide aux sociétés de la restauration, de l'hôtellerie ou du transport aérien. Autre conséquence majeure pour de nombreux Américains, ce plan de relance prolonge le moratoire qui interdit les expulsions de personnes qui sont dans l'incapacité de payer leur loyer. Il suspend également les saisies immobilières et alloue des fonds pour la distribution des vaccins contre le coronavirus. Toutes ces mesures étaient suspendues à la signature de Donald Trump. Ce revirement de dernière minute est intervenu après un dimanche marqué par de nombreux appels de parlementaires de tous bords afin d'éviter une catastrophe économique et sociale pour près de 14 millions d'Américains. Le très influent sénateur républicain Mitt Romney avait enjoint le président Trump a signé ce plan d'aide avant qu'il ne soit trop tard, ce qu'il a finalement fait très tardivement pour montrer que sa capacité de nuisance était intacte avant de ratifier également dans la foulée la proposition de loi de financement de l'État fédéral, ce qui permet d'éviter un shutdown, la fermeture des services publics.
Comment compenser le divorce avec l'Union européenne ? Voilà longtemps déjà que les partisans du Brexit invoquent un rapprochement commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et nul doute qu'à ce titre, Donald Trump, avec son dédain assumé pour le multilatéralisme et son mépris des institutions bruxelloises, apparaissait comme l'allié idéal. Sauf que dans 3 semaines à peine, Downing Street trouvera comme interlocuteur à la Maison-Blanche Joe Biden, lequel entend renouer au contraire avec l'Union européenne et surtout ne partage nullement l'esprit cavalier seul des Brexiteurs, ou quand le Royaume-Uni pourrait bien se retrouver une fois de plus démuni après l'accord conclu au forceps avec Bruxelles et dont l'adoption devra se faire à marche forcée avant jeudi minuit. Quoi qu'il en soit, ce qui inquiète le plus outre-Manche aujourd'hui, c'est encore l'épidémie de Covid-19. La courbe de contamination y est au plus haut. Le nombre de malades hospitalisés est désormais équivalent à celui du pic de la première vague en avril dernier, ou dit autrement, et malgré d'importantes restrictions sanitaires, le virus se propage à grande vitesse et notamment depuis l'apparition de cette fameuse variante particulièrement contagieuse. C'est une correspondance à Londres signée Richard Place.
Des étudiants en médecine ou d'anciens personnels de santé, l'hôpital de Cardiff a lancé un appel aux volontaires, un appel à l'aide pour une structure débordée. Les services de santé du Royaume-Uni sont sous pression, le virus s'ajoute aux habituelles maladies hivernales, les urgences affichent complet. Le risque est de ne plus pouvoir prendre en charge correctement les autres patients, d'accroître la mortalité par défaut de personnel ou simplement d'espace pour soigner. À Londres, le balai des ambulances est permanent. Il y a 2 jours, elles ont enregistré un record, 7918 appels en 24 heures. À cette époque de l'année, les sollicitations sont généralement plus fréquentes, mais c'était 2500 de plus que l'année dernière. Et des hôpitaux qui faisaient patienter pendant plusieurs heures avant de pouvoir s'occuper des malades. Cette surcharge est particulièrement frappante à Londres, mais aussi dans le sud-est du pays, là où la variante du virus a été découverte il y a 2 semaines.
Sur le vieux continent à présent, les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été livrées samedi aux 27 pays membres de l'UE. Les premières vaccinations ont débuté officiellement hier, même si l'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie avaient déjà pris les devants la veille. La Belgique a pour sa part débuté sa campagne ce matin. Quant aux Pays-Bas, ils attendront l'an prochain. Des échelonnements de calendrier qui tentent à démontrer combien aujourd'hui cette vaccination suscite autant l'espoir qu'elle nourrit la méfiance. Et c'est tout particulièrement vrai en France, selon une enquête BVA réalisée dans 32 pays sur les intentions de vaccination dans le monde, seuls 44% des Français interrogés envisagent de recevoir le vaccin. Pire encore, puisque parmi eux, à peine 13% se déclarent certains de le faire. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Au final, la France apparaît comme l'un des seuls pays, avec le Liban, la Croatie et la Serbie, où les intentions de vaccination, Tara, sont minoritaires.
Oui, les chiffres, il est vrai, sont assez stupéfiants. À la question « Quand le vaccin sera disponible, vous ferez-vous vacciner ?» Eh bien, 29 pays montrent plus d'enthousiasme que nous. 87% des Danois et des Coréens du Sud, 81% des Britanniques, 70% des Italiens et 65% des Allemands, pour n'en citer que quelques-uns, disent « oui ». Quand, vous l'avez dit Thomas, 44% des Français, donc moins de la moitié de la population, sont partants pour se faire vacciner. C'est un sondage qui corrobore les enquêtes précédentes. La Fondation Jean Jaurès, notamment sous la plume d'Antoine Bristiel, a montré mi-novembre. Quels sont les facteurs qui influencent cette défiance en France? Sans surprise, l'âge joue beaucoup. Plus on est âgé, plus on accepte le vaccin et inversement. Et cela ne vient pas d'un manque d'altruisme des jeunes qui seraient moins attentifs aux personnes âgées, non. D'autres sondages en Europe montrent que la génération actuelle fait attention aux autres. Alors c'est peut-être d'abord le fait que l'épidémie tue moins les jeunes, ils ont donc moins peur de la maladie, mais aussi leur plus grande connexion aux réseaux sociaux. Car on voit bien que à âge, diplôme, catégorie socio-professionnelle égale, plus on s'informe via les réseaux sociaux, plus on adhère aux thèses du complot, Antoine Bristiel l'a montré dans une autre étude. Or, les thèses anti-vaccins sont beaucoup véhiculées par les réseaux sociaux et les jeunes y sont donc plus perméables. Autre facteur qui joue, Thomas, dans la défiance, le niveau d'éducation. Moins on est éduqué, plus on est anti-vaccin. La catégorie socio-professionnelle et le vote populiste également, là encore, toutes choses égales par ailleurs. Les électeurs de Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan et Asselineau sont plus anti-vaccin que les autres. Enfin, Olivier Véran, dans le JDD qui publie donc le sondage d'hier, évoque aussi la défiance due au scandale. Sang contaminé, vache folle, hépatite B dont la vaccination avait mal démarré, tous ces précédents jouent, dit le ministre, qui ajoute optimiste que nous avons une occasion de restaurer la confiance dans la science grâce à ces vaccins, à condition évidemment, Thomas, qu'ils nous aident bien à surmonter la pandémie.
Merci Tara Schlegel. Alors en dépit de ce scepticisme ambiant, le vaccin était particulièrement attendu en France où, rappelons-le, l'épidémie a provoqué plus de 62 500 morts et où le virus circule encore activement. 15 000 contaminations par jour détectées en moyenne, avec un taux d'incidence particulièrement important dans le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté et les Alpes-Maritimes, au point d'ailleurs que les autorités n'excluraient pas un éventuel troisième confinement. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Alors les prochains jours seront scrutés avec une attention toute particulière. Toute la question sera évidemment de savoir si les fêtes de Noël, avec leur lot de réunions familiales, de déplacements, auront été ou non un catalyseur de la circulation du virus. Emmanuel Macron doit réunir un conseil de défense sanitaire demain, avant son allocution télévisée de jeudi soir. Mais d'ores et déjà, Sophie, certains maires de gauche comme de droite appellent à des reconfinements territoriaux.
Oui, et c'est le cas du maire PS de Nancy, dans l'une des régions les plus touchées par le virus. Mathieu Klein l'a déclaré ce matin sur France Info.
Je pense que la perspective du reconfinement est une perspective aujourd'hui inéluctable. Je veux que surtout nous soyons en situation de faire ralentir le plus vite possible l'épidémie. Mais ça n'est pas un maire qui peut décider de confiner ou prendre des décisions aujourd'hui d'autorité. Il faut que ça soit la responsabilité de l'État. Ce que nous avons à faire, nous, c'est de veiller à ce que les mesures de prévention soient à l'œuvre. Nous multiplions les centres de dépistage, nous préparons l'arrivée de la vaccination. Et d'ailleurs, j'insiste aussi sur le fait que dans nos régions, dans les régions les plus touchées aujourd'hui, il serait nécessaire que la vaccination soit présente le plus vite possible et accélère, parce que nous avons besoin là aussi de protéger la population.
Le maire de Reims propose lui aussi un reconfinement de la région Grand Est dès maintenant pour tenter d'inverser les courbes de contamination. Il faut aller plus dans le détail et reconfiner à l'échelle des départements, a estimé hier Éric Stroman, maire LR de Colmar. À Nice, le maire Christian Estrosi a convoqué ce matin le conseil local de santé, instance réunissant des professionnels locaux du secteur. Réunion de crise face à des indicateurs Covid en hausse à Nice où le pourcentage de personnes positives Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées y est proche de 7%. C'est deux fois plus qu'au niveau national. La pression monte donc encore d'un cran sur l'exécutif avant le Conseil de défense demain matin.
Merci Sophie Delpont. Et pour continuer d'évoquer cette question, donc invité de la rédaction aujourd'hui, l'eurodéputée de droite Nathalie Collin-Osterlet, membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Bonjour madame.
Bonjour.
Nous avons une nouvelle arme contre le virus, le vaccin. Voilà ce qu'écrivait ce week-end Emmanuel Macron dans une série de tweets, le chef de l'État, qui estime qu'au pays des Lumières et de Pasteur, eh bien, la raison et la science doivent nous guider. Une sorte d'avertissement, en somme, alors qu'une majorité de Français, on l'a dit, 56% envisagent de ne pas se faire vacciner. Est-ce que vous comprenez la réticence à l'égard de ce vaccin et plus encore, sans doute, d'ailleurs, la défiance envers les laboratoires pharmaceutiques?
Écoutez, je pense tout d'abord qu'il faut rappeler le rôle essentiel qu'a joué, qu'est en train de jouer, d'ailleurs, l'Union européenne. Avec en quelques mois la mise au point de vaccins qui sont autorisés aujourd'hui dans les différents États membres. Alors, ce qui est essentiel, c'est de faire comprendre déjà que plus on va vacciner vite, plus on parviendra à contenir cette pandémie. Il faut aussi rappeler et rassurer et expliquer. Et là, je crois que le gouvernement ne le fait pas suffisamment. On est en train de rater cette campagne de confiance qu'il est absolument nécessaire de mener, en expliquant qu'on est allé vite dans la mise au point de ces vaccins, tout simplement parce que chacun des essais cliniques a rassemblé plus de 30 000 volontaires à ce jour, et ce nombre ne cesse de croître. Donc, toutes ces données permettent de conclure à la sûreté et à l'efficacité de ces vaccins. Donc, je crois qu'il faut davantage expliquer pourquoi nous sommes allés vite et pourquoi nous sommes aujourd'hui en capacité de commencer ces campagnes massives de vaccination.
Connaît-on aujourd'hui les clauses précises donc de ces contrats qui lient aujourd'hui les laboratoires à la Commission européenne qui a commandé les vaccins ?
Écoutez, Emer Cook, directrice de l'Agence européenne du médicament et qui a pris ses fonctions en novembre, a été auditionnée et a bien insisté sur la transparence qu'il était nécessaire, bien sûr, d'avoir, avec donc le plan de gestion des risques qui va être publié, les procédures réglementaires qui vont être publiées. Mais alors, c'est absolument nécessaire, cette transparence est nécessaire pour arriver à obtenir ce climat de confiance, mais dans l'attente, et ça je voudrais vraiment insister là-dessus, dans l'attente que la population soit vaccinée et que l'on puisse atteindre cette immunité collective, je crois qu'il faut tester beaucoup plus que ce que l'on fait actuellement et isoler bien davantage encore. Tant que toute la population ne pourra pas avoir accès à ce vaccin, il faut vraiment renforcer cette campagne de testing et d'isolement.
Vous parliez à l'instant de l'importance de la transparence. Savez-vous, en tant qu'eurodéputé, combien d'argent l'Europe a-t-elle donné à chaque laboratoire ?
Il y a eu des fuites à ce sujet sur le prix des vaccins. On voit bien d'ailleurs que les achats groupés ont permis d'être beaucoup plus stricts sur les prix de ces vaccins. Je crois que c'est effectivement important. Maintenant, le vaccin a un coût, bien sûr. La santé n'est pas gratuite, mais franchement, l'Union européenne a vraiment joué son rôle. Il y a eu 2 milliards de doses qui ont été pré-réservées par la Commission européenne au nom des États membres auprès de 6 grands industriels. C'est absolument inédit. Ce sont des commandes groupées qui nous ont permis justement d'être beaucoup plus strictes sur en termes de négociation au niveau des prix, et je crois que vraiment c'est inédit. Il faut insister. Je crois vraiment que la population doit prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire en quelques mois, de mettre au point des vaccins pour parvenir à contrôler cette pandémie.
On n'aura donc pas le détail sur ces sommes d'argent que l'Europe a attribué à chaque laboratoire. J'évoquais au début de notre entretien les clauses précises des contrats qui lient donc les laboratoires à la Commission. Sait-on qui sera responsable d'éventuels effets secondaires en cas de problème, et donc le cas échéant, qui paiera d'éventuelles indemnités ? Est-ce que ce seront les États ou les laboratoires ?
Alors moi, je me suis exprimée là-dessus. Je pense que effectivement, il y a une prise de risque hein, par les laboratoires, bien sûr, qui ont été amenés à produire très vite ces vaccins. Je pense qu'il faut que les responsabilités soient très claires. Et moi, j'ai plaidé pour un fonds d'indemnisation qui soit financé par les établissements pharmaceutiques. Ça a été demandé par les associations de patients. C'est ce que je demande également. Mais il faut quand même savoir que pour les vaccins, en général, les effets secondaires sont connus dans les 2 mois. Donc, on devrait avoir très vite un retour par rapport à cela. Mais moi, je souhaite que ce fonds d'indemnisation soit mis en place. C'est ce que je me suis déjà exprimé à ce sujet au Parlement.
Dernière question, il faudra sans doute attendre de longs mois, évidemment, avant de venir à bout du Covid-19. Pour autant, diriez-vous que c'est enfin le début de la fin ?
Écoutez, je le redis, je crois que ce vaccin est vraiment la solution pour contrôler la pandémie. Il faut instaurer ce climat de confiance. Plus on vaccinera vite, plus on arrivera à contenir ce virus. Donc, et dans l'attente que toute la population soit vaccinée, je crois vraiment qu'il faut, à nouveau, je le redis, tester beaucoup plus massivement, communiquer également pour instaurer ce climat de confiance, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Et là, je crois que le gouvernement ne fait pas suffisamment sur ce sujet. Il ne faudrait pas, là encore, qu'on soit aussi peu efficient que qu'on l'a été en début d'épidémie concernant les masques et les tests.
On l'a bien compris. Merci Nathalie Collin-Oesterlet, eurodéputée, donc d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. En attendant de tirer sa révérence dans quelques jours, cette année 2020 aura été une année d'élections aux fortunes, disons diverses sur le continent noir. Si en Côte d'Ivoire et en Guinée, les troisièmes mandats anticonstitutionnels que viennent d'inaugurer Alassane Ouattara et Alpha Condé n'ont pas fini de déchirer ces deux pays. Au Burkina Faso, là-bas, le scrutin a permis de réélire dans le calme le président Kaboré, lequel doit prêter serment aujourd'hui. Hier, c'est au tour des Nigériens de voter dans le calme pour une transition démocratique et pacifique inédite dans un pays habitué des coups d'État et plus encore en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Quant à la Centrafrique, plongée dans la guerre civile, elle était elle aussi appelée aux urnes hier avec l'espoir de faire mentir ses anciens démons. Il y a quelques jours, plusieurs groupes rebelles à l'offensive contre le président sortant Touadéra avaient menacé de marcher sur la capitale pour empêcher la tenue du scrutin. Finalement, l'explosion de violence tant redoutée n'a pas eu lieu. En revanche, il semble qu'une partie importante de la population n'ait pas pu se rendre dans les bureaux de vote. Avec une chute record des émissions de gaz à effet de serre et une demande pour les énergies fossiles en berne, 2020 aura été de manière assez inattendue une très bonne année pour le climat. Les émissions de CO2 devraient avoir baissé d'environ 7% du jamais vu, une chute liée aux mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ce qui n'aura pas empêché de constater une fois de plus tous les effets du réchauffement climatique, qu'il s'agisse des tempêtes, des inondations, des ouragans, des canicules, sans oublier les incendies. En cette fin d'année, l'ONG britannique Christian Head vient de publier sa nouvelle estimation du coût de la crise climatique en 2020. Ce rapport analyse les 15 catastrophes de cette année, lesquelles, en plus d'un bilan humain sévère, auront eu un coût financier extrêmement lourd, quelques 130 milliards de dollars. Les précisions de Véronique Robérotte.
Aucun mois de l'année n'a été épargné. Jusqu'à fin novembre, chaque mois de 2020 était touché par au moins une catastrophe naturelle imputable au réchauffement climatique. Le rapport de l'ONG Christian Head, qui s'appuie sur des données librement disponibles, comme des rapports des Nations Unies, des études scientifiques ou des articles de presse, comptabilise 15 événements météorologiques extrêmes. Le rapport cible les tempêtes, les inondations, les ouragans, les typhons, les canicules et les incendies. Les événements les plus coûteux en termes financiers concernent la saison des ouragans dans l'Atlantique, 40 milliards de dollars de dégâts aux États-Unis et en Amérique centrale. Puis viennent les inondations en Chine, 32 milliards de dollars, puis à nouveau les USA avec les incendies qui, comme l'année dernière, ont ravagé la côte ouest du pays et coûté 20 milliards de dollars. Les États-Unis du climato-sceptique Donald Trump touchés comme aucun autre pays dans son économie. Des inondations liées à des moussons intenses sont à l'origine en Asie de 5 des 10 événements les plus coûteux de l'année. Et l'événement météorologique le plus meurtrier concerne les inondations en Inde de juillet à octobre. Elles ont fait 2067 victimes. L'Europe n'est pas épargnée avec la tempête Alex en octobre dernier, 16 morts, et la destruction en France et en Italie de maisons et d'infrastructures pour un coût de 3,2 milliards de dollars. Les pertes dues aux tempêtes devraient augmenter au cours des prochaines années dans plusieurs pays européens.
Quelques 18 000 foyers étaient privés d'électricité ce matin dans l'Est et le centre de la France en raison de la tempête Bella et des fortes chutes de neige enregistrées dans la nuit. 17 marins étaient toujours portés disparus ce matin après le naufrage d'un navire de pêche dans l'Arctique russe. Le navire, basé à Mourmansk, a sombré dans la mer de Barents, une région inhospitalière difficile d'accès où il pêchait en pleine tempête. Deux personnes ont été sauvées. En revanche, les chances de survie de leurs camarades tombés à la mer semblent particulièrement maigres au regard des conditions météorologiques extrêmes. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi relativement calme sur le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, le ciel sera le plus souvent couvert avec des averses et parfois même de la neige, notamment sur l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme. Ces 5 départements tous étaient placés en vigilance orange. Météo France a par ailleurs lancé une alerte pour un phénomène de vague submersion qui, associé à la tempête Bella, affectera tout particulièrement la Corse du Sud, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Var. Le vent d'ouest soufflera encore fort quant aux températures. Elles afficheront cet après-midi entre 4 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Benjamin Ducy et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.